Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Frères et sœurs bien-aimés, dans cette fête de la Toussaint, nous faisons mémoire de la vie éternelle. La fête de la Toussaint, c'est par essence la fête de l'espérance. Nous croyons que ce n'est pas le tombeau qui termine toute vie humaine, mais que toute vie humaine est appelée à la contemplation de Dieu, à vivre avec Dieu pour toujours. Cette espérance, le pape Benoît XVI a écrit des lignes très belles à ce propos, en disant que cette espérance, loin de nous, désengagés des réalités de ce monde, nous pousse à l'action. Parce que nous croyons que le monde et que notre vie et que nos actes retentissent dans l'éternité, nous croyons aussi qu'il faut améliorer ce monde, le rendre meilleur et donner aux générations à venir un monde plus juste et fraternel. Oui, l'espérance en la vie éternelle nous permet aussi de prendre conscience que chacun de nos actes, d'une manière ou d'une autre, retentissent dans l'éternité. Le fait que notre société mette Dieu dans le domaine privé et petit à petit, en tout cas pour la foi chrétienne, beaucoup délaisse la vie spirituelle, la vie de foi, c'est assez préoccupant, ne serait-ce que d'un point de vue humain, social, parce qu'il n'y a plus d'espérance. Ou plus exactement, il n'y a plus que l'espoir d'être rassasié des biens de ce monde par une consommation souvent effrénée et qui n'est toujours que plus encouragée par la publicité. Et quand les temps sont difficiles, comme nos temps actuels, eh bien ce n'est plus la réalité humaine qui peut satisfaire l'homme. Et donc il y a un grand vide, il y a une grande souffrance. Et ma crainte, c'est qu'une société qui ne reconnaisse plus Dieu, c'est une société sans espérance. Et une société sans espérance, tôt ou tard, peut devenir une société où il y a violence. Et là, parce que la violence est une réponse à un désespoir. Nous, nous croyons au contraire que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et que cette vie éternelle nous permet de remettre toutes choses, même les moments difficiles et les béatitudes que nous venons d'entendre en sont le témoignage, même les moments difficiles, nous les remettons dans la perspective d'une vie avec Dieu. Ils prennent sens. Et nous avons aussi cette certitude que nous n'emporterons rien de cette terre. Le linceul n'a pas de poche. Et donc, de cette terre, nous emporterons simplement des gestes d'amour désintéressés. La vie éternelle, quelque part, nous invite à la conversion permanente parce que nous sommes invités un jour à contempler Dieu. Et aujourd'hui, nous faisons mémoire de ceux qui nous ont précédés. C'est important, nous ne faisons pas table rase du passé. Nous montons sur les épaules des saints, connus et inconnus, pour voir plus loin, pour voir la réalité spirituelle, pour connaître Dieu. Ce qu'a découvert les saint Augustin, saint Jérôme, une Thérèse d'Avila, pour les plus grands saints, mais peut-être des saints plus connus, il est bien de faire mémoire dans nos familles, d'une grand-mère, d'une mère, d'une épouse, d'un père, d'un cousin, d'un prêtre que l'on a connu et qui nous ont aidés dans la vie spirituelle, parce que je fais mémoire de ceux qui ont vécu dans la vie de foi et qui maintenant, je le crois, dans la foi, sont avec Dieu, eh bien je demande aussi leur prière. C'est ça aussi, croire en la vie éternelle, parce que le croyant n'est jamais seul. Le croyant n'est jamais seul. Et donc je supplie la grâce pour découvrir dans ce monde déjà les traces du royaume et de l'invisible. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, par la fête de la Toussaint, à rentrer dans l'espérance, à découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand qui se joue dans notre vie qu'une simple réalité humaine, matérielle, tangible, économique. Nous croyons que se joue dans notre vie, eh bien, le face-à-face avec Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, disait saint Augustin, et notre cœur n'a de repos qu'en toi. Mais pour que ce face-à-face avec Dieu puisse trouver forme, puisse avoir creusé en nous une demande, eh bien, il y a les béatitudes. Et j'aimerais méditer avec vous au moins sur deux béatitudes. Vous savez, la plupart des béatitudes sont au futur, mais il en est deux qui sont au présent. La première, qui les résume toutes, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Et puis, « Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de présent qui se joue dans ces béatitudes. Nous pouvons toucher du doigt dans la foi, bien sûr, quelque chose du royaume de Dieu. Les autres sont dans le futur. Les doux, ils obtiendront la terre promise. Ceux qui pleurent, ils seront consolés, etc. Mais heureux les pauvres. Au fond, pour avoir cette intimité avec Dieu, pour découvrir que l'éternité se joue dès ici-bas, il faut avoir un cœur de pauvre. Un cœur qui accepte la parole de Dieu. Un cœur qui accepte la parole aussi du Christ qui nous dit aussi, nous appelle à la conversion. Au fond, c'est béatitude, c'est une invitation à la conversion. Avoir un cœur de pauvre, c'est accepter de ne pas tout contrôler, c'est accepter nos fragilités et de ne pas les voir comme des menaces. C'est accepter parfois de dépendre aussi. Avoir un cœur de pauvre, c'est de ne pas mettre notre propre point de vue ou notre propre pensée à l'origine de tout, mais de reconnaître qu'il y a Dieu qui lui-même vient nous éclairer par sa révélation. Oui, le cœur de pauvre, c'est celui qui accepte de rentrer dans une intimité avec Dieu en sachant qu'il a besoin de Dieu pour tout. Comme disait l'apôtre saint Paul, « Que n'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et Jésus lui-même rappelle, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, frères et sœurs, la fête de la Toussaint nous invite à une plus grande confiance en Dieu, une plus grande dépendance d'avec lui. Parce que nous avons cette tentation d'une toute-puissance, d'une forme d'orgueil qui fait que je n'accepte pas de dépendre. Non serviam, non serviam, je ne servirai pas. C'est ce que l'on met dans la bouche de Satan lorsque face à Dieu, justement, il a dû s'accueillir comme créature et non pas être Dieu lui-même. Il y a une tentation, vous savez, lorsque l'on refuse la foi, c'est que l'on devienne soi-même Dieu, on se prend pour tel. C'est ça. Soit la prière, au fond, c'est reconnaître que je suis la présence de la transcendance. Mais l'absence de prière, l'absence de foi, c'est de se mettre soi-même à l'origine des choses. Alors on ne dit pas comme ça, parce que si vous dites « je suis Dieu », ben vous aurez peut-être des problèmes et quelques médecins vous interneront en disant « mais non, ça se soigne très bien ». Mais c'est beaucoup plus subtil. Des gens tout à fait sains d'esprit qui n'acceptent d'autre autorité que eux-mêmes, qui mettent leur intelligence en particulier, leur intelligence à la source de tout. Voilà, alors que la Toussaint, c'est de mettre ce qu'il y a d'infini en nous, et ce qu'il y a d'infini, c'est notre capacité de connaître et notre capacité d'aimer. Ce qu'il y a d'infini, on le met dans la dépendance. On le fait passer par la porte étroite, la porte des pauvres. Et puis, la deuxième béatitude, qui est la béatitude des persécutés pour la justice. Et elle est au présent. Donc ça nous dit aussi quelque chose, que quand on rentre dans cette béatitude, je goûte déjà une anticipation du règne de Dieu. Cette béatitude, au fond, c'est cette certitude de la justice, hein, la justice, chercher le royaume de Dieu et la justice, c'est-à-dire d'être ajusté, hein, d'être ajusté à Dieu, bien sûr, la justice humaine, mais il ne s'agit pas simplement d'une justice humaine, mais chercher le royaume et essayer d'être ajusté à la parole de Dieu, et essayer de vous laisser façonner par la parole de Dieu. C'est vrai que parfois, parce que nous sommes croyants, peut-être moins sous nos latitudes, mais sous d'autres latitudes, parce que nous sommes chrétiens, eh bien, il nous faut subir l'opprobre, il nous faut subir le rejet, il nous faut subir parfois même la persécution et même le martyre. À travers cette béatitude, ça nous dit que la vie éternelle, elle souffre aussi violence, dans le sens où elle n'est pas faite pour les tièdes, elle est faite pour ceux qui ont un grand désir dans le cœur, et même s'il n'en coûte aussi parfois de passer par des moments difficiles. Oui, la vie éternelle, ça appelle aussi de rentrer dans la passion du Christ, d'accueillir cette passion de la main du Seigneur, ces différentes souffrances, non pas comme une désespérance, mais au contraire comme un appel à grandir dans la confiance. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à témoigner de cette vie éternelle. Quand vous êtes père et mère de famille, et quand on met un enfant au monde, nous le croyons ainsi, nous ne le mettons pas simplement au monde pour cette vie, nous le mettons au monde pour la vie éternelle. Et ça change tout, parce que du coup on l'éduque en pensant qu'un jour il contemplera Dieu. Et donc on l'éduque en pensant qu'au fond il y aura cette, comme le dit saint Jean, hein, parce que nous le verrons, nous serons semblables à lui, à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il est appelé, chaque personne humaine, et en particulier les enfants, parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'enfance de très fort, est appelé à cette contemplation. Alors oui, au fond, la vie éternelle nous pousse à l'action, je le disais, mais nous pousse au fond à avoir une profonde confiance dans notre réalité humaine, une profonde confiance aussi dans notre monde, que ce n'est pas le mal qui aura le dernier mot, c'est la parole de Dieu et la miséricorde de Dieu qui aura le dernier mot. C'est ça la fête de la Toussaint. Nous faisons mémoire de personnes connues et inconnues où la parole de Dieu, où la promesse de la miséricorde de Dieu a eu le dernier mot. C'est ça la fête de la Toussaint. Et donc du coup, ça nous met dans une on voit la réalité, le mal. Il ne s'agit pas d'être d'un optimisme béat et inconscient. Non, 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 non. On voit le mal, mais on ne se laisse pas arrêter par le mal quand il s'agit d'aimer. Ça veut dire qu'on grandit dans notre âme, une grandeur d'âme. Alors que si l'on voit la vie simplement à l'aune des réalités terrestres, eh bien forcément, face à la difficulté, au mal, à l'injustice, on se protège. Et puis on essaie de tout sécuriser, comme on voit dans notre société. C'est aussi intéressant, la mentalité sécuritaire, le risque zéro, hein, tout est normé, tout doit être... Bon, c'est bien parce que ça évite des difficultés, des souffrances certainement, mais derrière ça,
Il y a l'idée qu'au fond, rien ne doit échapper à l'homme et que l'homme n'est pas un pauvre, non, l'homme est un tout-puissant qui doit tout maintenir dans ses mains. Nous sommes dans un lieu qui est très beau, qui nous rappelle aussi la vie éternelle. Vous le savez qu'avant d'être une chapelle et avant d'être passé par de nombreuses affectations différentes, ce lieu a été une infirmerie cistercienne que l'on appelait la salle des morts. C'est dire aussi que ceux qui y rentraient n'avaient pas beaucoup de chances d'en sortir, en tout cas vivants. Mais en même temps, en préparant cette homélie, je me suis dit que voilà le dernier lieu qu'ont contemplé des centaines de moines, ce lieu fondé sous l'âge de Saint-Bernard. Donc des centaines de moines ont contemplé ces murs avant de contempler Dieu. Eh bien, puissent ces murs séculaires nous rappeler aussi que nous sommes faits pour Dieu et que nous sommes faits pour la vie éternelle. Amen.